Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Plein Écran, une émission des podcasts de Webullition. Aujourd'hui, on se penche sur l'hyperconnexion, autrement dit le fait de passer plus de 3 heures par jour sur Internet. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà reçu cette notification qui vous indique votre temps passé sur les écrans.
Est-ce que moi j'ai des notifs aussi qui m'indiquent ?
Pour regarder hier, j'ai passé genre 4h30.
Ok.
Voilà, je pense que c'est à peu près pareil tout le temps. Voilà.
Je pense en genre 2-3 heures à peine.
Oh !
Pardon. En fait, c'est beaucoup, 6 heures.
Et vous, êtes-vous hyper connecté ? Pour le savoir, restez avec nous. Dans la première partie de cette émission, nous allons d'abord explorer notre rapport aux réseaux sociaux. Ils sont omniprésents dans notre société. Comment Facebook, Instagram, Snapchat ou encore TikTok arrivent à capter l'attention des plus jeunes ? Le scrolling, cette technique qui consiste à défiler les contenus à l'infini, y joue un rôle. Tout comme les influenceurs, c'est ce que nous verrons avec Mathilde Brision et Kevin Ferry. L'hyperconnexion impacte également nos vies. Elle s'invite dans nos foyers, elle agit sur notre concentration, elle influe sur le mode de travail de certains métiers comme les artistes. Claire Fleuriel, Aurélie Cordonnier et Elie Polselli se sont penchés sur les conséquences de l'hyperconnexion. Et nous aurons également le plaisir d'accueillir Yaël Panot, donc directeur d'établissement pour l'association Addiction France dans 4 départements du Grand Est. Et face aux dérives de l'hyperconnexion, des solutions existent. Marie-Vin nous en parlera en fin d'émission. Mais pour l'instant, vous êtes-vous déjà demandé quel était le temps d'écran moyen ? Eh bien nous, oui, nous avons déjà entendu quelques témoignages il y a quelques instants. Marie-Vin et Camille Varry ont demandé aux étudiants le nombre d'heures passées sur leur téléphone.
Dis-moi Marie, combien de temps tu passes sur ton téléphone ?
Alors, très bonne question Camille. J'ai justement reçu une notification ce matin qui m'indiquait le temps que j'avais passé sur mon téléphone la semaine dernière. Et je suis à 4 heures par jour en moyenne, ça fait déjà beaucoup.
Peut-être, je sais pas. Allons voir si les étudiants passent autant d'heures que toi sur leurs écrans.
Bien 5 heures.
Allez, on va dire 3 heures.
Moi, je pense 4-5 heures aussi.
Moi, c'est entre 2h30 et 3h30.
J'ai 6 heures.
Entre 4 et 5 heures, quand même.
Je pense environ peut-être 4 heures.
Moi, je dirais 2-3 heures.
Beaucoup de temps, au moins 8 heures.
Je sais pas, 10 heures. Mais pas genre dessus, mais genre allumé ou quoi.
Par jour, environ 4 heures.
Tu vois, t'es pile dans la moyenne. Mais c'est quelle appli qui te prend le plus de temps ?
Je dirais les réseaux sociaux quand même en général. Et les étudiants ?
TikTok.
Oh, YouTube.
Moi, c'est Instagram.
Twitter.
Snapchat et Instagram.
Je dirais TikTok.
Et moi, c'est plus YouTube.
Ah bah, on voit bien que les jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux.
Oui, et c'est compliqué de réussir à se décrocher de son téléphone. Tu penses que ces étudiants seraient prêts à le laisser un peu plus de côté ?
Allons leur demander ?
Il y a un peu de « j'ai envie de passer moins de temps sur mon écran » et un peu de « je m'en fous ». Parce que je suis tellement habituée, pour moi c'est devenu une habitude. Donc même si j'aimerais limiter mon temps d'écran, je suis devenue addict.
J'aimerais bien le baisser, mais je sais que j'ai trop pris l'habitude de prendre mon téléphone et tout.
Bah, il y a des moments où j'aimerais bien le réduire pour bosser un peu plus.
Réduire pour faire d'autres choses, genre des vraies activités, des trucs où à la fin je suis contente d'avoir fait un truc.
Je préfère réduire un peu pour faire autre chose. Mais c'est pas facile quand on est dedans.
Merci Marie et Camille. On voit bien que les jeunes passent beaucoup de temps sur les écrans et ils essaient pourtant de se limiter, mais c'est vrai que les réseaux sociaux impactent nos vies. L'hyperconnexion s'invite même jusque dans nos foyers. Les parents doivent gérer l'utilisation des téléphones des enfants. Claire Fleuriel a interrogé Cyril et sa fille Claire sur l'impact de l'hyperconnexion dans leur quotidien.
À Ennery, à quelques kilomètres de Metz, Claire, 15 ans et collégienne, est connectée en permanence à son téléphone. Sur les réseaux sociaux comme à YouTube, la jeune fille garde toujours un œil sur son téléphone.
Ah, mais Claire, c'est une ado, ado. Elle est quand même conciliante, hein, tout ce qu'on lui demande de faire pour participer à la vie de famille, elle répond généralement toujours présente. Elle le fera jamais d'elle-même. D'elle-même, elle va plus aller se connecter, être sur son téléphone, sur les réseaux, sur les vidéos, sur les TikTok. Sinon, d'elle-même, non, elle fera jamais la démarche d'aller... Elle ne prendra pas l'initiative de participer à une tâche ménagère. Par contre, si on lui demande, elle sera toujours, elle répondra toujours présente.
Une disponibilité qu'elle garde pour sa famille, mais dès le retour du collège, entre ses leçons et les réseaux, son temps d'écran passe de 30 minutes à plus de 3 heures.
Bah, après les cours, je vais manger, je vais faire mes devoirs et après, je vais sur mon téléphone ou je vais devant la télé. Oui, je l'ai toujours avec moi. Moi, je ne regarde pas tout le temps des vidéos, mais je regarde quand même beaucoup. Je passe plus de temps avec mon téléphone qu'avec mes parents.
L'effet de cette hyperconnexion se ressent également sur le temps qu'elle accorde à ses devoirs.
Entre tous les devoirs qu'elle a à faire, elle passe quasiment ses week-ends sur les devoirs parce qu'elle est en même temps en connexion avec ses devoirs à 30% et en connexion avec les réseaux, avec Internet à 70%.
Et quand les notes ou l'ambiance familiale en pâtissent, des solutions sont trouvées.
Quand je suis trop sur mon téléphone, on me dit d'arrêter, sinon il me l'enlève. Ou parce que j'ai fait une bêtise, on va me l'enlever, quoi. Je le prends mal, j'aime pas. Parce que le téléphone, c'est indispensable. Non, mais j'aime pas quand on m'enlève le téléphone.
J'essaie d'éviter d'émettre des règles, de donner des interdictions et de priver d'un objet personnel, qui que ce soit, mon enfant, à son âge, à 15 ans. Je trouve que priver d'un objet personnel comme le téléphone, je trouve que ce n'est pas la solution.
Merci Claire. Avec tous ces témoignages, on voit bien que le téléphone est devenu indispensable pour les jeunes. Tous y passent plusieurs heures. Cette activité semble pourtant sans grand danger. L'hyperconnexion a de nombreux effets négatifs cependant, notamment sur la concentration. Aurélie Cordonnier nous en dit plus.
Imaginez la scène. Vous êtes assis dans votre canapé, vous lancez un film. Voilà à peine 5 minutes qu'il a commencé, que vous ressentez déjà le besoin de saisir votre téléphone et d'aller voir ce qui se passe sur Instagram ou TikTok. Tant pis pour le film, vous décrochez et préférez scroller sur les réseaux sociaux. Car depuis leur apparition, ils font baigner les utilisateurs dans une urgence du néant. L'urgence de vérifier son téléphone ou ses notifications alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. Et cela impacte la concentration qui baisse d'année en année. En 2000, la durée d'attention des individus était de 12 secondes contre 8 secondes en 2015 selon les données de Microsoft. En comparaison, celle d'un poisson rouge est de 9 secondes, sachant qu'il faut 64 secondes pour reprendre le fil de sa pensée après avoir été interrompu. Toujours selon Microsoft, une navigation web élevée diminue de 39 à 27% la durée d'attention. Les réseaux sociaux ont lancé une véritable course à l'attention. L'apparition de TikTok est une nouvelle étape dans cette course. Les contenus sont très courts et s'enchaînent, les gens passent d'une vidéo à l'autre sur un temps long, donc le cerveau est stimulé et très réactif. Le problème, c'est qu'en étant stimulé sur des durées et des activités courtes, il n'arrive plus à se concentrer sur des durées plus longues, aussi bien chez les adultes que chez les plus jeunes. Et même si Internet permet d'effectuer plusieurs tâches en même temps, les utilisateurs vont rarement au bout des choses, et dans la vraie vie, la capacité de notre cerveau à faire plusieurs choses en même temps diminue également. Chaque catégorie de la population y est exposée, cela n'est donc pas une question de sexe, d'âge ou de classe sociale. La déconnexion est donc nécessaire si vous voulez retrouver pleinement votre capacité de concentration.
Merci Aurélie. Intéressons-nous maintenant au doomscrolling. Cette fâcheuse manie nous pousse à consulter indéfiniment notre fil d'actualité qui est envahi par des informations stressantes. Mathilde Brision nous explique le principe de ce concept apparu récemment.
Dès votre réveil, dans les transports en commun, dans votre canapé après une journée de travail, vous êtes nombreux à pratiquer le doomscrolling sans même le savoir. Le doomscrolling est un mot valise composé du nom doom qui signifie la chute et du verbe to scroll qui veut dire défiler. Cela désigne donc le défilement à l'infini des mauvaises nouvelles sur les réseaux sociaux. C'est littéralement le défilement morbide. Cette tendance a émergé sur Twitter en 2018 et s'est encore amplifiée ces derniers mois. Entre le Covid, la guerre en Ukraine et le réchauffement climatique, le terrain est propice au doomscrolling. Vous consultez sans vous arrêter ces informations anxiogènes. Les algorithmes vous proposent alors des contenus personnalisés, ce qui vous encourage à faire défiler encore plus votre flux d'actualité. C'est un cercle vicieux qui a de nombreuses conséquences sur la santé physique et mentale. Les jeunes sont particulièrement touchés par ce nouveau phénomène de l'hyperconnexion. En prenant l'habitude de scroller, ils s'exposent à des nouvelles stressantes et pessimistes. Cette pratique est encore accentuée par le syndrome FOMO, c'est-à-dire la peur de manquer quelque chose si vous ne vous connectez pas. L'hyperconnexion recouvre ainsi beaucoup de mots et d'acronymes compliqués pour dire une chose simple. Les réseaux sociaux sont néfastes s'ils ne sont pas utilisés avec parcimonie.
Merci Mathilde pour cette explication. Le doomscrolling n'est pas le seul phénomène à capter l'attention des utilisateurs. Depuis plusieurs années, une nouvelle activité fait son apparition sur les réseaux sociaux, celle d'influenceurs. Kevin Ferry est parti à la rencontre de Marine Profeta. Elle est directrice de Brune Agency, une agence d'influenceurs au Luxembourg.
Avez-vous déjà acheté un produit en vous basant sur du contenu créé par une personne que vous suivez sur les réseaux sociaux ? Plus encore, il vous est nécessaire de connaître la position de votre YouTuber favori pour fonder votre opinion sur un sujet d'actualité. Alors vous avez été affecté à un leader d'opinion. Concept initié par Paul Lazarsfeld dans les années 1940, les leaders d'opinion se caractérisent comme étant des individus d'influence de par leurs expertises sur la construction des opinions de leur entourage, Depuis l'émergence d'Internet et l'apogée des réseaux sociaux, le profil de ces individus diffère. En quelques années, les influenceurs se sont accaparés ce rôle au sein de cette sphère d'hyperconnectivité. Twitter, Instagram, Twitch et désormais TikTok, les réseaux sociaux sont de plus en plus nombreux. Autant de plateformes voyant les influenceurs s'illustrer pour le meilleur comme pour le pire. Marine Profeta nous donne son avis.
C'est vraiment une passion pour eux, mais effectivement, oui, ils influencent, hein, sur des achats, sur une façon peut-être de porter des vêtements.
Ce que Marine décrit, c'est les contenus que publient les influenceurs qui sont sous son aile. Mais dans une société où tout le monde est expert en tout, certains vont plus loin, jusqu'à orienter les opinions politiques de leurs followers.
Lors des élections présidentielles l'année dernière, effectivement, il y avait des influenceurs qui n'hésitaient pas à marquer leur idée politique. Ils savaient clairement pour qui ils allaient voter, ou en tout cas pour qui ils n'allaient pas voter. Donc je pense qu'effectivement, les très très gros le font.
Une pratique que notre interlocutrice n'approuve pas totalement.
Donc là, on va être encore plus influencé par quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui va nous dire, voilà, moi je vais voter un tel ou je ne vais pas voter un tel, mais sans donner forcément, je trouve, de fond, vous voyez ? Pas forcément de... On n'est pas là lors d'un débat ou chose comme ça d'idée. Donc c'est juste suivre quelqu'un qu'on aime bien sans savoir pourquoi derrière. Donc ça, je pense que c'est le côté ultra négatif.
Un côté ultra négatif, selon ces termes, faisant penser à Enjoy Phoenix ou encore Je ne suis pas jolie, qui étaient toutes les deux politiquement marquées dans leur contenu. Mais alors, cette pratique entraîne avec elle des questions. Quelles sont les limites à cette influence ? Un homme de pouvoir peut-il se servir de ses leaders d'opinion 2.0 afin de capter de l'électorat ? Une chose est sûre, cette angle de l'hyperconnectivité peut s'avérer dangereuse si aucun recul n'est pris vis-à-vis des contenus que l'on visionne.
Merci Kevin. Les plateformes sont des outils pour les influenceurs, mais pas uniquement. Les artistes aussi les utilisent, et en particulier Instagram. Hugo Menorol est graphiste. Il témoigne d'une forte dépendance à Instagram, un réseau qui se tisse avec d'autres créateurs. Tout comme Ornella Tempesta, chanteuse. Ellie Polselli a recueilli leurs témoignages.
Vidéaste, modèle photo, acteur ou illustrateur, les métiers créatifs ont besoin de visibilité. La chanteuse Ornella Tempesta et le graphiste Hugo Menorol expliquent pourquoi Instagram prend une très large place dans leur vie d'artiste.
Petit artiste ou grand artiste, on n'a pas le choix de publier constamment, tout le temps, pour que les gens se rappellent de nous. Pas tomber dans l'oubli, on va dire.
Comme je suis dans un métier de l'image sur Instagram, c'est fait pour que tout soit beau et tout soit parfait. C'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie, 4 à 5 heures par jour.
Il y a des fois, j'y suis 2 à 3 heures par jour. Je publie des photos, je publie des pochettes d'albums, je publie les dates de mes prochains concerts, je publie toutes les informations pour permettre aux gens de savoir où c'est qu'ils peuvent me voir en concert, etc. Et c'est un bon moyen de promo aussi. Hein.
Entre abonnés à satisfaire et nouveaux clients à séduire, c'est un travail numérique, mais quotidien, répétitif et usant.
Des bonnes descriptions, d'avoir un bon feed, regarder tout le temps si tu avais des gens, comment tes abonnés commentaient, tes statistiques, savoir si ta publication elle a plu ou pas. En fait, c'est ça surtout qui prend beaucoup de temps. Pour le résultat, forcément, celui escompté.
Si on n'y est pas pendant un certain temps, les gens vous oublient. Quand vous mettez du contenu constamment, vous retombez dans les statistiques en fait.
Pour se démarquer, ils s'investissent beaucoup en ligne.
Et là, le fait de poster moins, parce que je poste moins qu'avant, il y a de moins en moins de personnes. Ça peut être un obstacle à la carrière si on ne le fait pas régulièrement. Et au niveau des opportunités, c'est pas vraiment sur Instagram, c'est plus pour la communication, on va dire.
Pour l'instant, là, je suis grave en remise en question par rapport à la communication. C'est cool d'avoir des abonnés, ça remplit pas ton frigo, tu vois.
À mes débuts, je postais presque une fois par heure, c'était même trop. Mais par contre, j'avais des milliers et des milliers de personnes qui répondaient à mes statuts, à mes photos, et de pouvoir répondre à leurs messages, pouvoir répondre à leurs commentaires. Ça permet d'entretenir un lien avec eux que je ne peux pas faire avec les autres réseaux sociaux, par exemple.
Hugo, qui vit de ses créations, a souffert de cette hyperconnexion.
Je fais une pochette d'album, j'y mets tout mon temps, toute mon énergie, je suis trop content. Je mets sur Instagram, je vois que le truc ne marche pas du tout. Que les gens, soit ils n'étaient pas là pour regarder, soit ils n'ont pas liké. Et en fait, le truc, c'est que ça me pourrissait le cerveau. Sur la vision de mon travail que j'ai, je me dis, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est de la merde. Du coup, je voyais qu'au fur et à mesure, en fait, à force d'être influencé, tu te rends compte que tu fais des choses que tout le monde fait et en fait, ça se fond dans la masse. Moi, je fais plus rien, quoi, parce que j'ai peur, justement, de ressembler à tout le monde.
Merci, Ellie. On voit bien que l'hyperconnexion ronge le quotidien des artistes. Ils y passent plusieurs heures par jour sur leur téléphone. Peut-on alors considérer l'hyperconnexion comme une addiction ? Camille Varie reçoit aujourd'hui Yaël Panot. Bonjour Monsieur Panot. Vous êtes le directeur des établissements de l'association Addiction France dans 4 départements du Grand Est.
Bonjour. Bonjour Yaël Panot.
Bonjour.
Le sujet de notre émission aujourd'hui est l'hyperconnexion. Nous avons constaté à travers nos divers reportages que les jeunes ont une addiction de plus en plus forte aux écrans. Certains n'en voient pas le problème alors que d'autres aimeraient s'en détacher plus. Avez-vous constaté la même chose chez Addiction France ?
Alors effectivement, c'est un sujet qui revient de plus en plus aujourd'hui. On a ce qu'on appelle un peu partout des consultations jeunes consommateurs où là on va pouvoir se mettre à disposition de jeunes qui vont venir poser des questions. Et c'est vrai que la question des écrans, nous on dit plutôt les écrans, est de plus en plus importante.
Combien de jeunes viennent pour une addiction aux écrans ?
Alors, ce serait difficile de vous donner des chiffres là à ce stade. On n'est pas encore sur un chiffre important. C'est peut-être 10% des personnes qui viennent parler de ça. Mais généralement, on vient parler d'un produit type le tabac. Et puis finalement, on fait un peu le point sur toutes les consommations. Donc, les écrans viennent sur le sujet.
À quel moment l'utilisation devient excessive ?
Alors, c'est là, et je reprends ce que vous disiez au début, on parle d'addiction. L'addiction, c'est vraiment une étape un peu finale, on va dire. Là, on parle plutôt de surconsommation ou de consommation excessive, avec les conséquences que ça peut avoir, vous les avez citées dans vos différents reportages. Quand on parle d'addiction, là, on est sur un stade différent. Là, vraiment, on subit en fait sa consommation, on en subit les conséquences, et surtout, on a une perte de maîtrise. Donc, on a peut-être tous une surconsommation, mais de là à parler d'addiction, on n'en y est pas encore.
Qu'est-ce qui différencie l'addiction aux écrans des autres addictions ?
Alors, dans le mécanisme, rien, en fait. Encore une fois, quand je dis addiction, c'est une perte de contrôle. On subit, en fait, finalement, sa consommation. Donc, dans le mécanisme, il n'y a pas vraiment de différence. Peut-être dans les conséquences. Où là, ce n'est pas une addiction physique à un produit, c'est plutôt les conséquences sociales qu'on va voir le plus au niveau des écrans.
Plus en détail, quelles sont ces causes et ces conséquences de l'addiction aux écrans chez les jeunes ?
Alors les conséquences, c'est un peu ce que vous avez cité, mais en plus, il y a la perte de lien social. Ça, c'est peut-être ce qui remarque le plus. Il y a également tout ce qui va être les questions de concentration, les questions de mémoire, mais aussi c'est un peu tout le comportement général d'une personne. Donc être plus irritable, plus anxieux, plus dépressif. C'est un peu toutes ces conséquences-là qu'on va voir en premier.
Comment vous aidez-vous chez Addiction France les personnes addictes à leur téléphone et à leurs écrans ?
Alors la première chose déjà, c'est effectivement de faire le point effectivement sur cette consommation, d'essayer de voir un peu tout ce qui a poussé et tous les leviers en fait qu'on peut lever pour gérer le problème. Alors je vais m'expliquer plus simplement. C'est une approche systémique. En fait, on va essayer de voir un peu tout ce qui peut amener à cette consommation d'écran. C'est pas juste simplement je prends mon téléphone parce que j'aime les réseaux sociaux, j'aime les influenceurs, j'aime bien scroller, on essaie de voir tout ce qu'il y a autour, l'environnement social, la famille, l'environnement à l'école, un peu tous ces points-là sont vus en fait.
Vous faites aussi de la prévention pour les addictions aux écrans ?
Alors oui, c'est la prévention de manière générale, on en fait sur tous les produits, c'est à la fois ce qu'on va appeler des compétences psychosociales, le fait de prendre les bonnes décisions pour soi, le fait de ne pas subir la pression de groupe. Alors là par exemple le fait de ne pas toujours essayer de se tenir au courant de tout ce qui se passe, vous en parliez, ces syndromes, j'ai plus le nom mais vous en parliez, voilà, le fait de ne pas vouloir manquer quelque chose. La prévention elle va être sur ces compétences psychosociales et également sur informer en fait tout simplement des conséquences, sur casser les représentations aussi qu'on peut avoir. Là, classiquement, non, j'ai 4 heures d'écran par jour, est-ce que je suis addict ? Non. Voilà, c'est un peu de l'information et à la fois du développement de compétences psychosociales.
Dans quel cadre vous faites cette prévention ? Vous allez dans les écoles ?
Il y a plusieurs possibilités, effectivement. On va aller dans les écoles, on va aller en parler, on va pouvoir faire également de la prévention sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui se développe petit à petit, hein, où on va demander justement à des jeunes de créer eux-mêmes des outils de prévention sur les réseaux sociaux. C'est peut-être ce qui devrait, je pense, à l'avenir marcher le mieux. Pour le moment, effectivement, on va plutôt se rendre dans les lieux où se trouvent les jeunes. On va dire les écoles, mais aussi les missions locales, ce genre de choses. On va essayer d'aller faire des groupes de travail, en fait, sur ces questions, où, encore une fois, on va les amener plutôt à se poser des questions, plutôt qu'arriver en brut et dire, bon, voilà ce que c'est les dangers de l'écran. On va plutôt essayer de travailler, de faire parler, d'utiliser des outils pédagogiques pour faire comprendre les choses.
D'accord. Merci beaucoup, Yaël Panot, pour vos réponses. Mmh.
Merci Camille et Yaël. Je rappelle, Yaël Panot, vous êtes directeur d'établissement pour l'association Addiction France dans 4 départements du Grand Est. Les jeunes passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux et peuvent même en devenir accros. C'est dangereux sur le long terme, mais pourtant il existe des solutions gratuites et simples, comme faire un planning pour répartir son temps. Marie Vin nous en dit plus.
L'hyperconnexion et l'addiction aux écrans est un phénomène pouvant toucher l'équilibre psychologique des plus jeunes. Pour lutter contre cette addiction, il existe plusieurs remèdes. Réaliser un planning pour répartir son temps est la solution pour le psychologue Lucas Merzweiler. Il faut d'abord regarder notre temps de présence sur les réseaux sociaux dans la rubrique « temps d'écran de notre téléphone ». On peut ensuite répartir des temps de loisirs, de travail et de réseaux sociaux dans un planning. Contrairement à d'autres addictions, le psychologue nous précise qu'il n'est pas nécessaire de stopper complètement les réseaux. L'idée est de s'y rendre de moins en moins et l'idéal serait de ne pas dépasser une heure de réseau par jour par tranche de 10 minutes. Un autre bon réflexe serait d'arrêter les écrans 2 heures avant d'aller se coucher. Le sommeil serait plus efficace et l'addiction moins forte.
Mais existe-t-il des applications pour lutter contre cette hyperconnexion ?
Oui, effectivement, de nombreuses plateformes permettent de fixer une limite sur les applications choisies. Si je mets un maximum de 30 minutes sur Twitter par exemple, je recevrai une notification à la fin de ces 30 minutes me disant qu'il est temps d'arrêter d'être sur mon téléphone. Mais il existe aussi l'application Cardia qui permet de réaliser des cycles de respiration. On peut même l'utiliser dans notre planning pour avoir des moments de méditation, comme l'explique la psychologue Nora Abdi, interrogée par Noé Chaillot. Le but est d'occuper notre esprit ailleurs pour être moins addict. L'application est très intuitive et permet de choisir des rythmes de cycles différents. 5, 10, 15 secondes, que vous ayez du temps ou pas, l'application est là pour vous aider à vous détacher de vos écrans.
Merci Marie. Si vous êtes hyper connecté, pas de panique, on vient d'entendre les solutions pour pallier ce phénomène. Merci à tous de nous avoir écoutés et merci à Yael Panot d'avoir fait le déplacement aujourd'hui pour nous répondre. N'hésitez pas à aller écouter l'émission de nos confrères intitulée 20 minutes chaleur tournante. À bientôt sur les ondes des podcasts de Webullition.